Et vous écoutez France Culture. À mon seul désir, et c'est sans doute cela la définition du mauvais genre. Il est des portes que l'on ne pousse pas impunément. Celle du 17 rue Dieu à Paris, où Agnès B. accueille l'exposition « À mon seul désir », retour sur 20 ans de mauvais genre, est une de ces grilles hantées, de ces poternes maudites. Elle ouvre sur ce qui est sans doute le cabinet de curiosité d'aujourd'hui. Showroom érotique, pornographique, oratoire luciférien, entre ou s'offrent au regard les œuvres de ceux qui, de Pierre Molinier à Mirka Lugosi, en passant par Kenneth Anger, Jérôme Zonder ou Olivia Clavel, n'ont qu'un rêve, mordre la ligne jaune des conventions, franchir la ligne rouge, celle du sang, celle des rêves. Alors, passez la ligne, transgressez à votre seul désir. Donc Agnès B, bonsoir et merci infiniment, infinie gratitude pour cette exposition à mon seul désir qui nous permet de revenir sur 20 années de mauvais genre, 20 années de mauvais genre radiophonique d'une part, mais également 20 années de mauvais genre, je dirais, artistique à tout point de vue, que ce soit depuis le dessin jusqu'à la vidéo et au cinéma. Et donc première question qu'on a envie de vous poser ce soir, prévisible et assez classique, cette expression mauvais genre qui est une expression critique, qui est une expression conçue par les adversaires de cette sensibilité. Comment vous-même vous pouvez la définir? Et à quel moment dans votre vie vous avez eu le sentiment qu'un objet, une personnalité, un lieu, un climat était mauvais genre?
Vous savez, je suis née à Versailles, alors mauvais genre tout de suite, c'était une expression qui était employée. Hein. Oh, elle a vraiment mauvais genre, alors ça c'était... Mais j'ai connu Kenneth Anger, Hollywood Babylon avec Christian Bourgois quand ils sont publiés chez Julliard Kenneth, j'avais 17 ans, donc j'ai compris déjà des choses à ce moment-là. Voilà, il y a eu ça, il y a eu après plein de choses évidemment. Un mauvais genre, c'était une connotation vraiment de là où je venais en tout cas, qui était péjorative. Mais moi, ça m'a toujours attiré les gens qui sont différents. Puis j'aime les gens qui osent. J'aime les gens qui osent. Alors là, je prête mes murs à des gens qui osent. J'ai prêté quelques pièces pour cette exposition et je pense que le résultat est très impressionnant en fait.
Dans votre collection, comment est-ce que vous avez choisi des pièces mauvais genre pour cette exposition? Qu'est-ce qui a résonné?
C'est Jean-François qui a choisi les pièces, hein. C'est lui.
Mais ce sont vos pièces?
Oui. Moi j'ai prêté mes murs et Jean-François a fait ce qu'il voulait. Voilà, dans deux espaces, un tout blanc, un tout noir. J'ai toujours aimé ce côté-là, un côté blanc, un côté noir, un côté rangé, un côté désordonné. Versailles, c'est comme ça. Il y a des endroits très organisés, puis d'autres qui partent en forêt. Voilà, moi j'aime bien ces deux côtés-là.
C'est vrai que Versailles, c'est un univers ambigu. Autant le palais est le domaine de l'étiquette, autant les jardins étaient le domaine de la folie un peu débridée.
Ah oui, il se passait plein de choses dans ce fameux labyrinthe qu'ils avaient fini par enlever tellement il se passait des choses là-dedans. Hein. Vous savez, c'était à la fin du 18e, je crois, ils ont arrêté. Ce fameux labyrinthe. À Versailles, il y avait aussi des gens qui osaient, il y avait aussi des gens qui étaient de sexe indéfini complètement et qui assumaient ça et qui le revendiquaient, Orléans ou des gens comme ça. Il y avait du mauvais genre à Versailles, évidemment. Mais il y a toujours eu ça, je crois, on peut remonter très loin, hein. Il y a toujours eu des gens comme ça, heureusement. Des gens qui vous déportent, des gens qui font des choses différentes, des gens qui inspirent les autres par leur liberté, justement. J'aime bien la liberté, j'aime bien ceux qui osent. Je les admire, parce que moi je suis peut-être trouillarde aussi, je sais pas, je suis peut-être réservée aussi, plutôt. Donc moi j'aime les gens qui osent, et il y en a plein en bas. Hein.
Est-ce qu'on vous a déjà reproché, ou est-ce qu'on vous a déjà traité de personne de mauvais genre, Agnès B?
Non, ma mère pensait que j'étais quand même rebelle dans le fond. Même, elle pensait vraiment ça. Pourtant j'étais très sage et tout, mais elle sentait que j'avais un truc... comme ça, oui.
Mais ça se voyait dans quoi, cette rébellion?
Elle le sentait, parce que j'étais... Justement, ça se voyait pas, je crois, pas beaucoup. Mais il y a deux jours, quelqu'un me dit, mais vous êtes punk quand même. En interview, on me dit, vous êtes quand même punk. Hein. J'ai dit, oui, sûrement, j'ai un fond punk, sans doute, oui. C'est-à-dire que j'aime pas les arrangements. Les arrangements, je veux dire, dans les familles aussi, il y a des arrangements, et j'ai jamais aimé ça. Donc moi, je me suis sauvée à 21 ans avec deux jumeaux parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et que je voulais rester moi-même. J'ai été agressée, j'ai eu des choses qui me sont arrivées, qui étaient dures. Donc ça aussi, ça m'a formée, ça m'a appris la vie. On parle en ce moment énormément d'agressions sur les petites filles, bon, je sais de quoi on parle. Donc ça m'a rendue plus forte aussi peut-être. C'est ce que disait Félix Guattari, il me disait, c'est parce que tu as vécu tout ça que tu as cette force. Bon, merci Félix, peut-être.
On pourrait peut-être alors faire votre la devise de l'exposition qui est « À mon seul désir ». Est-ce que cette devise pourrait représenter un petit peu votre cheminement artistique ?
Mais je trouve que ça veut dire aussi que ça peut être pas du tout à notre désir, qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas à notre désir, justement. En tant que femme, en tant qu'ex-petite fille, je sais qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas du tout à mon seul désir. C'est pour ça que j'aime bien qu'on dise ça, hein, parce que chacun l'interprète à sa manière, je pense, cette phrase, qui est belle. Hein. Mais est-ce que c'est toujours à votre seul désir ? C'est pas sûr.
Alors, on parlait de Kenneth Anger. Vous pouvez nous en parler, justement, ce personnage.
Kenneth, arrivant au Flore, en biker, en cuir de la tête aux pieds, blouson, pantalon, sa petite frange noire, qu'il a toujours maintenant, d'ailleurs, qui est peut-être moins noire qu'avant, mais qui s'emploie à garder noire. Petite frange très courte, un visage magnifique, avec une bouche magnifique, et qui s'était employé à parler d'Hollywood comme on n'en parlait pas, alors que maintenant, bon, on commence à soulever le voile et ça fait des dégâts. Mais lui, à ce moment-là, a parlé de ce qui se passait à Hollywood. C'était assez intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui osaient des choses qui ne se faisaient pas. C'est ça, ça ne se fait pas. Ma mère disait toujours, mais ça ne se fait pas, voyons.
Il y a aussi présent dans l'exposition trois photomontages de Pierre Molinier. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'acquérir Pierre Molinier ? Qu'est-ce qu'il représente ?
J'ai acheté ça dans une vente aux enchères. J'étais conseillée par mon ami Pierre Rémer, qui m'a appris pas mal la photographie, qui est lui-même artiste et qui travaillait en tant qu'expert pour Binoche. À ce moment-là, j'ai acheté ces pièces il y a au moins 15 ans ou plus, même 20 ans. Parce qu'il me touchait, parce que je trouve que les gens... C'est un travail, j'ai représenté Nan Goldin longtemps, et d'être quelqu'un d'autre, toute la journée, tout le temps, s'employer à être quelqu'un d'autre, à être une femme quand on est un homme, ou à être un homme quand on est une femme. C'est un travail énorme, je dirais épouvantable même, difficile, et en même temps tellement déterminé, tellement acharné, ça m'émeut. C'est parce que ces personnages m'émeuvent en fait. Parce qu'ils ont du mal à faire tout ça et à être ce qu'ils sont. C'est ça qui me touche, c'est ces personnages-là.
Ce sont des personnages qui ne font pas de tractation. Justement, vous parliez des arrangements, qui est un grand mot, famille bourgeoise. Oui. L'arrangement, c'est quelque chose de fondamental, puisqu'on est en permanence en train de négocier, de s'arranger. Ou de faire semblant. Mais vous ça a été peut-être là, le point de départ, la volonté. Je ne m'arrangerai jamais avec personne.
Exactement. J'ai horreur des arrangements. J'aime que ça soit clair. Mais moi, je suis quelqu'un qui a la foi et qui croit au ciel et tout. Vous savez, j'ai mes amis du ciel. Et je trouve que l'hypocrisie, justement, ces arrangements, ces trucs, je déteste ça. C'est une espèce de morale, mais ceux qui assument d'être quelqu'un d'autre, je trouve ça magnifique.
Justement, vos amis du ciel, votre foi, comment vous la vivez au contact de gens comme Kenneth Anger, qui est un luciférien, qui est un porteur de la lumière des ténèbres? Quel dialogue vous pouvez avoir avec ce type
de
figure?
Le diable n'existe pas, en fait. On nous a raconté beaucoup d'histoires sur le diable, mais j'y crois pas au diable. Je crois à Dieu, mais je crois pas au diable.
Jean-François Sens, bonsoir et merci pour ces 20 ans de mauvais genre et pour ce seul désir que vous nous avez permis d'exposer et que vous avez organisé et orchestré. Alors comment, déjà, on va d'abord un peu parler du travail général. Comment arrive-t-on à organiser des univers aussi différents que ceux de Crumb, de Nicolet ou de Mirka Lugosi, c'est-à-dire des univers qui consonnent entre eux avec tout un tas de thèmes comme la transgression, l'érotisme, le rêve, le cauchemar, mais qui en même temps sont des mondes fermés, sont des mondes extrêmement singuliers. Comment organise-t-on tout ça? Sur quelle base arrive-t-on à organiser un accrochage pareil?
Ben, on galère pour faire un accrochage pareil, je vous le cacherai pas. Mais il y a toujours des passerelles justement entre ces différents univers, je pense. Et on peut construire des histoires, on peut, en juxtaposant les choses, il y a des tensions qui se créent, des ressemblances ou des dissemblances qui font que voilà, on joue sur les contradictions, sur les oppositions, ou au contraire sur les éléments communs. Donc voilà, j'essaie de tester certaines choses qui me paraissaient fonctionner ou pas, et en fonction de ça, l'accrochage s'est construit in situ, avec les pièces sous les yeux, parce que c'était difficile. Je connaissais pas la plupart des pièces, en fait, toutes les pièces qui ont été choisies par l'équipe de Mauvais Genre. C'est la première fois que je fais une expo dans laquelle j'ai pas choisi l'ensemble des pièces. Du coup, c'est un exercice intéressant, c'est un exercice de style. L'expo, a mûri petit à petit par le travail qu'on a accompli tous ensemble ces derniers mois. Et puis l'accrochage s'est fait vraiment in situ avec les pièces enfin arrivées sous les yeux, entre les mains, etc. Là, il y a des choses qui se construisent très vite. Mais ouais, c'est une expérience que je regrette pas, intéressante.
Alors vous commencez, l'exposition commence sur une grande toile de Jérôme Zonder. Comment vous fonctionnez? Il y a un fil que vous tirez, vous avez choisi de démarrer sur Zonder et puis après vous n'aviez plus qu'à faire une sorte de marabout bout de ficelle. Comment ça marche?
La première salle en fait est assez axée sur tout ce qui est dessin, graphisme, bande dessinée. Voilà, il a fallu aussi répartir les œuvres, les travaux en fonction de à la fois des thématiques et des médiums utilisés. Et sur la deuxième salle qui est plongée dans le noir, j'ai plus axé sur la photo, les objets. Et la première salle, c'est plutôt ouais, tout ce qui est graphique avec différents travaux très divers. C'est vraiment très très éclaté, très diversifié, très éclectique. Au fur et à mesure de l'accrochage, il y a des travaux qui se répondent et qui rebondissent, on rebondit d'un travail sur l'autre, et il y a aussi des travaux qui entrent en interaction dans le premier bloc de dessin, par exemple, qui sont des dessins au crayon. J'ai mélangé des œuvres de Mirka Lugosi, Jean-Luc Vernat, il y a Crumb pas très loin. Voilà, c'est des tomes de Pékin et un peu plus loin, parce que graphiquement c'est quand même autre chose, c'est très très coloré, très plus fort du point de vue de le chromatique. Mais voilà, il y a des petites expérimentations qui ont l'air de plutôt bien fonctionner, puisque Mirka avait l'air contente de se retrouver associée au dessin de Jean-Luc. Crumb, à côté de ça, je trouve ça rigolo aussi. C'est dans le même médium, mais une approche très différente. Mais il me semble que la juxtaposition fonctionne. Et en ce qui concerne Jérôme Zonder, je dirais que le critère qui a été déterminant, c'est la taille des pièces. Deux dessins très grands, dont celui qui est au fond du premier hall de l'exposition, qui représente une espèce de danse macabre. Dans son cas particulier, ce qui a été déterminant, c'est justement ouais, l'ampleur de l'œuvre et comment la placer dans l'espace, en fait, parce que c'est impossible de mettre ça à côté de petits dessins encadrés, ça bouffe tout, c'est d'une puissance hallucinante. Donc j'ai choisi leur emplacement en fonction essentiellement de leur taille, de ce qu'elle représentait. Je trouve que le vis-à-vis lointain qu'il y a entre les deux grands dessins de Jérôme fonctionne plutôt bien et ponctue l'entrée et la sortie de la première salle.
On peut peut-être juste décrire cette première œuvre de Jérôme Zonder qui ouvre l'exposition.
C'est le portrait d'une fémène qui est en train de hurler et donc qui fait face à ce grand dessin de danse macabre où on voit un squelette en train de danser qui vient d'une œuvre du 15e, je crois, 15e siècle. Qu'il a fait, je crois que c'est quelque chose qu'il a fait pour son exposition au musée Tinguely récemment.
Deux invités de marque dans cette exposition à Mont-Saint-Désir, Jean-François Sens. D'abord le diable, qui est présent dès l'affiche, puisque cette grande figurine aux bras déployés avec un soleil derrière la tête est une figure luciférienne signée Marjorie Cameron. Et Marjorie Cameron, elle est au cœur de l'exposition, dans un lieu qui est un peu l'œil du cyclone, qui est une sorte d'oratoire ou de chapelle des abîmes, un lieu fermé dans lequel se célèbrent peut-être quelques rituels diaboliques. Alors il y a elle, juste en face de l'accès à ce petit endroit, il y a des photos des films de Kenneth Anger, dont on sait aussi, puisqu'il en a le nom de tatoué sur le torse, que c'est un luciférien. Et puis sur un mode, je dirais, plus français, plus gaulois, il y a le lyonnais Jean-Michel Nicolet. Je dis le lyonnais parce qu'on sait très bien que le luciférisme, c'est son temps célébré à Lyon, donc il lui aussi a une œuvre exposée. On peut déjà citer le diable comme une sorte d'invité de marque de l'exposition.
Il y a une espèce d'axe satanique, effectivement, puisque derrière le mausolée, j'allais dire, de Marjorie Cameron, il y a l'installation de Sixtine Audebert sur les vidéos antisatanistes, ce montage de films antisatanistes qu'elle a fait spécialement pour l'exposition. Du coup, il y a une espèce d'axe comme ça maléfique, mais qui était un peu inévitable. Il y a aussi, ouais, la pièce de Kenneth Anger avec marqué Lucifer sur le dos d'un blouson de cuir qui fait face à l'entrée de la pièce où il y a les œuvres de Marjorie Cameron. Oui, ça, je crois que c'était un des incontournables de l'exposition. Et cette salle est assez axée sur cette thématique-là et sur l'érotisme aussi, qui est assez présent dans cette salle noire.
Et parmi les œuvres qui sont présentées ce soir dans l'exposition, est-ce qu'il y en aurait une ou deux qui vibreraient particulièrement pour vous, qui vous transperceraient le cœur peut-être ?
La couronne mortuaire d'Éric Pougeot, fils de pute, c'est quand même un must.
Justement, sur la transgression, on parle du diable, bon, d'accord. Mais alors, cette couronne avec où on est habitué de voir à mon cher époux, à ma grand-mère, au mien, voir fils de pute, c'est-à-dire le lieu de l'affection et de la déploration qui devient le lieu de l'insulte, là, il y a une tension extraordinaire.
Oui, là, c'est la transgression la plus totale. Et c'est en même temps très marrant, quoi. C'est vraiment un boulot qui fonctionne sur l'humour noir. Moi, ça a été une découverte. Je ne connaissais pas ce travail, justement. C'était un des choix de Céline du Chesnay. J'ai trouvé ça. Enfin, ça a été une belle découverte de cette exposition, justement. Il y en a eu d'autres, hein, mais j'avoue que ça doit être. C'est peut-être ce que je retiendrai en priorité.
Jean-Pierre Dionnet, nous sommes au 17 rue Dieu, qui est aujourd'hui le siège du groupe Agnès B. Mais quelque chose me dit que cet endroit ne vous est pas inconnu. Alors pourquoi et à quoi ressemblait-il alors ?
Eh bien, le 17 rue Dieu, qui était des vieux immeubles avec une loge concierge en bas, sans fenêtre, avec deux pièces, c'était le siège social, le premier des humanoïdes associés, où on a fait Métal Hurlant numéro 1 et 2. Quand le 2 est arrivé, on a les retours du 1, on n'avait plus qu'une pièce. Et j'ai reçu un jour une très belle lettre de Nikita Mandrika qui disait « Dieu habite maintenant 17 rue Dionnet ». Voilà.
Et à quoi ressemblait cet immeuble qui est aujourd'hui un oasis de calme, tout en blanc, tout en noir, et le lieu d'un travail serein et méticuleux. À l'époque, ça ressemblait à quoi ? C'était plutôt balzacien ?
Oui, c'était balzacien, c'était un immeuble 19e en très très mauvais état, avec des personnes âgées et un type qui depuis a pris plein de restaurants comme le Baconi et tout ça, qui habitait en face, ça avait l'avantage d'être les loyers les moins chers de Paris, ça avait l'avantage qu'on était à côté du canal Saint-Martin, où on allait manger nos sandwichs, et à l'époque, un peu, on a peut-être tort, mais enfin on n'a pas eu de problème, on allait se baigner dans le canal Saint-Martin l'été, qui était notre piscine.
Et vous étiez sous les combles ou dans la cave ?
On était en rez-de-chaussée puisque c'était deux loges de concierge sans fenêtre mises bout à bout. Une loge et une pièce qui devait servir de débarras. L'absence de fenêtre était un peu gênante, mais enfin on laissait la porte ouverte.
Alors Jean-Pierre, quand on a commencé à réfléchir à cette exposition, à concevoir un petit peu chacun apportant sa pierre à l'édifice, vous avez choisi Laurent Melki et l'univers de la VHS, de la vidéo. Alors, parlez-nous de ce choix et puis du pourquoi et du comment. Et parlez-nous de Laurent Melki.
Laurent Melki, moi je suis un acheteur de VHS à l'époque, hein. Et il me frappe très évidemment. Il me frappe entre autres avec Vidéodrome, bien sûr, mais pas seulement avec tous ces films d'horreur de cette génération, zombies, etc. Et avec un trait très particulier qui donne à penser que parfois il a eu de super documents sur le film, que des fois il a dû tout inventer. Ça, c'est évident. Et avec un dessin qui est un dessin d'affichiste. C'est-à-dire que les règles ne sont pas les mêmes que dans l'illustration, dans la peinture. On est là sur une surface réduite, avec une qualité d'impression irrégulière, pour vous faire acheter une cassette. Et il s'en sort admirablement bien, parce que ces jaquettes en question attirent l'œil, et en réalité, sont même parfois un peu menteuses, mais au bon sens du mot. C'est-à-dire qu'elles vous font acheter des bons films et puis des fois des moins bons. Et puis après, j'ai continué à suivre son travail, qui est devenu hyper réaliste dans la période Belmondo. J'ai continué à suivre son travail quand il a fait le cirque, à un moment même où le cirque est en danger. Donc je trouve qu'il a un parcours mauvais genre par excellence. Et puis je crois, mais il peut le dire mieux que moi, qu'il est quand même un des rares artistes à avoir eu des ennuis avec son école d'art graphique, bon chic, bon genre, de s'être fait convoquer en conseil de discipline pour du fait de la vulgarité de son dessin. Je rappelle que Delacroix n'a jamais pardonné à Ingres d'avoir refusé que ses tableaux soient exposés pour raison de dégénérescence graphique. Donc l'affaire est ancienne.
Laurent Melki, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis on est très heureux que vous figuriez dans cette exposition à Mon Seul Désir. Alors, est-ce que vous sentez coupable de dégénérescence graphique? Et est-ce que vous êtes un affichiste, un illustrateur mauvais genre?
Écoutez, bon, faut pas. C'est absolument. De toute façon, Jean-Pierre a tout dit. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il dit qu'il me suit depuis très longtemps. Moi, je le suis aussi depuis un temps fou et on ne s'était jamais rencontrés. Alors, on était fans l'un de l'autre. C'est comme ça que les belles histoires arrivent. Et en effet, il ne faut pas confondre mauvais goût avec mauvais genre. Il y a des gens de bon goût qui sont très, très vulgaires. Quoi. Donc non, là, je revendique à mort ce style-là, qui est finalement que d'aucuns, comme mon école de dessin qualifiée comme vulgaire et tout, je me suis battu toute ma vie pour essayer de légitimer un petit peu ce style, un peu tapageur, un peu pompier, un peu racoleur. Mais c'est ça, il faut faire venir les gens. Le but, c'est quoi? C'est de séduire, de procurer de l'émotion, du désir. Parce que sans émotion, il n'y a pas d'adhésion possible du public.
Alors comment séduit-on? On séduit avec un traité réaliste, hyper réaliste, sur des sujets qui ne le sont pas forcément habituellement. On séduit avec des couleurs fortes, agressives. On séduit avec des effets matière sur le métal. Sur les agressions, les griffures, la putréfaction. Il y a tout un hyper-réalisme du mauvais genre.
Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au début, quand j'étais dans mon école, je dessinais pas du tout comme ça. Je dessinais comme mes maîtres de l'époque, qui sont Druyer, qui est juste derrière moi. Alors là, je bois du petit lait. Vraiment, c'est incroyable. Gottlieb, Druyer, Franquin, Fred, Moebius, tout ça. J'étais vraiment comme Jean-Pierre, dans ce moule-là. Et bon, j'avais les collines et le petit pinceau, tout fin, et je faisais de la BD. Mais j'ai très vite compris que ce n'était pas pour moi. Moi, il fallait faire 20, 40 planches. Ça demandait un an pour faire une BD qui peut-être n'allait pas se vendre. Et je me suis dit, allez, va droit à l'essentiel, droit au cœur des gens, fais une baie, un beau dessin. Et je me suis décarcassé, j'ai acheté un aéro, bon, et j'ai changé de technique, et voilà.
Alors, ce qui est sidérant, c'est que vous, entre guillemets, vous vendez de la même manière et avec le même enthousiasme, même virtuosité, Binder ERTF, que Cronenberg, Freddy, que Belmondo. C'est-à-dire que c'est là où ça devient troublant, c'est que c'est la même, c'est la même écriture, le même style. Qui expose des choses qui ne sont pas forcément faites pour aller ensemble.
Ah non, c'est le grand écart de l'art qui est vraiment qui est une pierre d'achoppement dans mon métier. C'est quelque chose de fantastique. On se balade d'un univers à l'autre. C'est vraiment un truc de clown, d'équilibriste, moi. Bon, mais ce qui est bien, c'est que je suis mu par ma passion. C'est-à-dire, j'adorais Belmondo, j'avais 18 ans, je me suis dit, ce gars-là, faut que je le dessine. Bon, je faisais des Freddy, c'est ça qui c'était ma passion antérieure, qui m'a pas quitté. Et au bout d'un moment, le temps étant venu, je me suis dit, je vais m'approcher de lui, j'ai envie de faire une affiche de Bébel, et j'ai réussi à le rencontrer. Je suis comme une midinette, moi, et donc, bon, tous ces acteurs-là, je suis vraiment pétri de tout ce genre de choses. Donc, c'est des univers qui me conviennent, et je vais de l'un à l'autre, mais par ma passion, en fait.
Dans cette exposition, il y a des sculptures, des illustrations, des peintures, beaucoup de photos, mais il y a également une installation, c'est la vôtre, c'est Xylo de Berre, qui est une installation, je dirais, qui travaille un peu la filière satanique et luciférienne qui est présente dans cette exposition avec Agnès Sanger, Marjorie Cameron et Jean-Michel Nicolet. Mais vous, c'est moins le luciférisme dévot, voire extatique, qu'un anti-luciférisme problématique.
Tout à fait. En fait, c'est une installation qui a été réalisée à partir d'un montage vidéo qui est diffusé sur une télé écran cathodique pour donner l'esprit 90s et qui est, donc, a été réalisée à partir de différentes vidéos américaines et anglaises de propagande anti-sataniste. Donc, ce sont des VHS à l'origine et dont j'ai récupéré les films et que j'ai travaillé en ne gardant que les extraits les plus percutants pour donner une illustration de ce discours qui est complètement invraisemblable et apeuré, et qui finalement retravaille, remet en scène les imaginaires qui sont ceux de la culture populaire à propos du satanisme de manière générale. Et donc, c'est traversé par différents personnages qui vont être soit les maîtres de l'univers, soit la musique heavy metal, soit, je ne sais pas moi, tout simplement ce problème énorme qu'il y a eu autour du livre qui a été publié dans les années 80 et qui dénonçait des abus qui avaient été perpétrés sur une petite fille qui confessait donc cela à son psychiatre d'une secte, des abus ritualisés. Et donc tout cela monté en sauce avec une panique morale aux États-Unis et en Angleterre autour du satanisme et de ce que ça pourra engendrer quand les enfants seront pervertis et quand cela deviendra apocalyptique, catastrophique. Donc toute la culture populaire et mainstream est relue en termes de nocivité et d'investissement dans l'imaginaire des enfants pour en faire des relais de Satan, des messagers de l'apocalypse, voilà, très clairement.
Philippe Rouillet, depuis 20 ans à Mauvais Genre, on célèbre la fête de la galette des rois tous les samedis.
et tous les mardis avant, c'est-à-dire qu'on est d'effrayants consommateurs de DVD et aujourd'hui de Blu-ray, après avoir été des grands mangeurs de VHS. Voilà. Et donc, pour célébrer ces 20 ans de Mauvais Genre, vous nous avez offert un film, mais qui est un film fait de tous les films et de tous les films qu'on a aimés depuis 20 ans et qu'on a aimés et qu'on a surtout découvert en DVD. C'est donc une sorte d'œuvre à partir de l'œuvre des autres. On part, je dirais, d'une confession polonaise pour arriver dans un western. Je ne sais plus quel est le dernier film, mais voilà.
Le dernier film, c'est Irréversible, évidemment.
Irréversible, donc
on
de Gaspard Noé.
Irréversible.
Donc 20 films pour 20 ans à partir de 20 DVD, ce qui donne un film qui est le film anniversaire de Mauvais Genre.
Absolument. C'était ça l'idée, avec partir vraiment d'établir 20 films emblématiques de toutes ces émissions qui nous ont rassemblés, qui nous ont plu. Et après, une fois qu'on se retrouve avec les 20 films, essayer de prendre à chaque fois une minute et de faire que les films dialoguent entre eux. C'est-à-dire qu'à l'émission, on a plutôt tendance, pour d'évidentes raisons pédagogiques, à regrouper les films selon leurs thèmes, leurs auteurs, leurs genres. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est tout le contraire. Il faut exploser les barrières et faire dialoguer, par exemple, La Rivière Rouge de Howard Hawks avec Zombie de George Romero. C'est-à-dire que le cri des cow-boys qui lancent la grande migration des bestiaux déboule sur les Hells Angels. Ce n'est plus les vaches, c'est les Hells Angels qui sont dans le supermarché. Et vous vous souvenez dans Zombie, évidemment, de Romero, cet extraordinaire affrontement zombie contre Hells Angels. Ça se termine à un moment dans une piscine, enfin une espèce de bassin à l'intérieur du mall. Et ce bassin, on le retrouve chez Black Edwards, dans la partie délirante qui se termine en bain moussant, etc. Donc on passe du bassin des zombies au bassin avec Peter Sellers. L'idée, c'est comme ça, toujours de faire dialoguer les œuvres entre elles pour en même temps nous ramener des effluves de toutes ces émissions où on a célébré des films. C'est que des films qu'on aime, évidemment.
Autre artiste donc, que nous a amené Pacôme, oui. Killofer. Alors oui. Là, la... raison et motivation.
Je vous ai amené Killofer. Hein. Je m'excuse en avance pour ce qu'il va nous dire.
Moi aussi je m'excuse en avance.
Non. Killofer, c'est aussi un c'est, comment dire. Il y a dans Killofer, il y a tellement d'univers et tellement de monde que c'est très difficile de le décrire en une phrase ou deux. Que ce soit dans ses bandes dessinées, dans ses dessins. Il est capable d'aller et de chercher quasiment comme quelqu'un qui va forer le sol et trouver des trésors. Ce sont des trésors qui peuvent être assez effrayants et en même temps d'une beauté stupéfiante. Et l'œuvre que j'ai choisi de Killofer, en fait, elle est assez, peut-être assez inhabituelle par rapport à une exposition. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui était faite pour l'anniversaire de Jean-Christophe Menu, des 50 ans de Jean-Christophe Menu, qui était cofondateur de l'association avec Killofer, mais où il va le chercher sur une montagne et il est comme une pyramide. Il est comme une momie. Pour moi, ça résonnait énormément d'avoir ça et d'avoir l'œuvre de David Bay, qui est une interprétation de Sohrawardi. C'est-à-dire qu'on avait la Perse, l'Iran et l'Égypte. Toutes les deux assez curieusement, elles sont d'une taille assez comparable. C'est des triptyques tous les deux. Mmh. Et elles résonnent esthétiquement. De façon assez forte. Les bandelettes, la matière noire, les éléments mystiques, les éléments littéraires. Alors évidemment, David, c'est pas une bande dessinée, mais il y a tous les titres des œuvres de Sohrawardi, des figures de Sohrawardi qui traversent. Tandis que Kilo, il y a aussi tout un monologue et un dialogue qui est lié, on va dire, à la grande geste mystique de l'association. Mais il vous en parlera mieux que moi.
Oui, je vais en parler beaucoup mieux, effectivement. Merci Paco, ceci dit. Oui, alors donc, c'est une bande dessinée en trois pages. Ce qui est drôle, tu devais être un peu au courant, Paco, je pense, mais cette histoire est un peu le début des emmerdes à l'association, en fait. C'est quand même une histoire un peu charnière dans l'histoire de nos rapports avec Menu et de tout ce qui s'est passé à l'association ces dernières années, et les grandes fâcheries, les grands... bordel qu'il y a eu à l'association. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une idée que j'avais eue de faire un cadeau à Menu sous forme de bande dessinée. En fait, de faire un livre de bande dessinée, un hommage à Menu. C'était ses 40 ans, un cadeau d'anniversaire à l'association. Puis bon, c'est vrai que c'était une idée un peu taquine de lui faire un bouquin dans le dos à l'association. Tout ça nous faisait bien rire.
Et on est allé soumettre l'idée aux salariés de l'association qui nous ont dit que c'était pas une très bonne idée de faire un cadeau à menu. Bon, du moins pas sous cette forme. Et là, on s'est dit qu'il y avait un problème. Enfin bon, bref, et ça a donné lieu à tout un tas de bordel à l'association. Donc oui, c'est une pièce. D'ailleurs, c'est une pièce que les gens connaissent assez peu, puisque en fait, c'est le bouquin finalement a été fait, mais hors commerce, juste pour les auteurs et les amis, quoi. Et donc c'est merci Pacôme de la montrer un peu, parce que c'est vrai que personne connaît cette histoire.
Et c'est une très belle page. Très
oui,
belle
mais
page.
C'était pas à moi de dire ça, bien sûr.
Il se trouve que grâce à l'accrochage ingénieux de Jean-François Sanz, de François-Henri-Julien, de Céline Duchesnay, ces planches voisinent celles d'Hugues-Micole. Et j'ai été très frappé en arrivant, parce que celles d'Hugues-Micole, les deux premières sont très blanches, les deux secondes sont complètement noires, et vous avez cette façon, moi qui m'a toujours fasciné, qu'il faut faire de jouer avec les masses de blanc et de noir, avec un principe de yin et de yang presque dans chaque planche. Comment est-ce que vous les pensez, ces blancs et ces noirs?
Je ne les pense pas, je les observe, on va dire, plutôt. Bah, le noir, c'est quelque chose de... Bah, je travaille sur papier blanc, d'ordinaire. Hein. Donc, le noir, c'est proliférant. Donc, ça a tendance à s'étendre. Comme ça, on a tendance à vouloir en mettre toujours. Le truc à faire, c'est de se laisser aller dans l'expansion du noir et d'arrêter au bon moment. C'est ça, le truc, quoi. Mais c'est vrai que cette bande dessinée, bah, si elle parle de l'Égypte, c'est aussi parce que Menu a à voir beaucoup avec l'Égypte, et sa mère est égyptologue, et puis le côté bandelette, ça renvoie peut-être à ses rayures. Quand Paco me disait que c'était une momie, c'est une momie, oui, mais une momie vivante, hein, une momie qui parle, qui bouge, qui fait des choses. Et puis son côté solitaire, et puis l'araignée qui pend au bout du nez. Moi, quand je lisais les bandes dessinées populaires, quand j'étais petit, les momies, elles avaient toujours une araignée qui pendait au bout du nez. Je trouvais ça merveilleux. Donc, non, mais il faut savoir que l'araignée, pour Menu, c'est un animal un peu totem. Je crois que c'est comme ça qu'il imagine plus ou moins l'association, comme une espèce de grosse araignée. Et voilà, quoi. Donc tout ça. Et puis c'est l'homme invisible, l'homme imprévisible, s'appelle la bande dessinée. Ça fait un jeu de mots avec l'homme invisible, couvert de bandelettes. Parce que bon, Menu est quand même imprévisible. Hein. Il ne cessera de m'étonner, hein. Jamais. Mais en même temps, il a quelque chose. J'ai envie qu'il sorte de ces bandelettes quelque part. On a. Mais bon, on va arrêter sur Menu après tout. Il a qu'à être là. Hein. Non, je n'en dirai pas plus. Non, arrêtez, laissez-moi tranquille, c'est fini.
Sous le pont Mirabeau.
Antoine Guillot, vous êtes un des commissaires de cette exposition, et quand on vous a donc proposé un choix de dessinateur, le choix est assez vite venu sur David Sourdry, qui est là, bonsoir. Alors, explication, d'abord, qui est David Sourdry, pourquoi l'avoir choisi, et peut-il nous expliquer ce qu'il en est de ce qu'il a montré ce soir?
Alors, David Sourdry, c'est quelqu'un que j'ai découvert avant même d'avoir vu quoi que ce soit de lui, comme beaucoup d'autres personnes, à la faveur d'une interview de Robert Crumb il y a 5 ans dans Les Inrecuptibles, qui nous alertait sur un auteur qu'il ne fallait absolument pas rater, dans lequel il se reconnaissait, et en disant que l'auteur le plus excitant du moment actuellement s'appelait David Sourdry. Alors, qui était David Sourdry? Je le cherche partout et je finis par le trouver dans plusieurs journaux, dont Le Psychopathe et chez les Requins Marteaux, qui ont ont édité une bonne partie de son œuvre, dont un livre absolument remarquable qui est paru il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle « Les idoles malades », alors qui est une collection à la fois de dessins remarquables d'idoles tombées à terre et de bandes dessinées qui s'inspirent à la fois de Winsor McCay et de ses cauchemars de l'amateur de fondue au Chester. Donc ça donne une série qui s'appelle « La fondue galloise » et comment un certain nombre de cauchemars peuvent résonner avec les péchés capitaux. Et puis aussi « Les aventures de Ronald Fuck », Ronald Fuck étant un petit homme barbu, confronté à des femmes sculpturales qui ressemblent d'ailleurs un peu à celles de Crumb. Alors imaginez, pour donner une image à ceux qui n'ont jamais vu de dessin de David Sourdry, imaginez un crayonné de Robert Crumb, mais qui serait ancré par Yves Chaland. Voilà, ça vous donnerait un peu l'idée pour des bandes dessinées extraordinaires. Alors j'en ai choisi 3 avec vous, François. Vous nous avez accompagné à Rennes pour rencontrer David Sourdry, qui anime là-bas une formidable structure associative qui s'appelle La Rouquine, qui publie aussi des petits comics de dessins tout à fait licencieux qui s'appellent Bonheur. Et c'est effectivement, ça fait notre bonheur de lecteur. Et alors nous avons choisi 3 planches, dont une en 2 parties qui s'appelle Massage Body Body et l'autre qui s'appelle Love Boat. Et chaque fois que je passe et que je repasse devant ces planches, je suis très heureux de les voir en vrai dans cette exposition. Eh bien, ça me laisse tout à fait perturbé et extrêmement rêveur.
Eh bien, je dirais pas mieux. Ma foi, je suis bien présenté, ça va, ça me convient tout à fait. Et voilà, bon, ça exprime beaucoup, ces planches expriment beaucoup le désir mêlé à la mort, en fait. C'est, bon, je tourne ça beaucoup en dérision, mais il y a une espèce de, dans ce désir très fort de la femme, il y a une espèce de mélange avec une pulsion de mort. Donc je l'exprime souvent par le meurtre, enfin la mort du personnage principal. Donc c'est vraiment la collusion, enfin, le cerveau qui explose quoi, par le désir, quoi, voilà.
C'est pas seulement le meurtre, c'est aussi l'humiliation. C'est le personnage découpé en morceaux dont on va décaloter le crâne pour uriner dans la cavité crânienne d'où surgira un ruisseau sur lequel naviguera un paquebot. Enfin, sont des images tout à fait oniriques en même temps. Alors comment est-ce qu'elles vous viennent, ces images? Est-ce que c'est au trait du dessin, au fur et à mesure que vous le dessinez? Est-ce que ce sont des rêves que vous faites?
Rêves, souvent c'est dans un demi-sommeil. J'ai du mal à me lever, je fais partie des gens qui traînent beaucoup au lit et souvent je me motive avec des images comme ça pour me réveiller. Donc une femme qui me coupe en deux avec une épée, c'est des images qui me viennent comme ça spontanément et je me suis dit un jour ça serait peut-être bien de les mettre en images, pourquoi pas, ça pourrait parler à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et apparemment oui, un peu, ouais. Voilà, mais j'ai pas vraiment voulu faire le lien avec Crumb. Ces liens sont venus naturellement au fil des années et même c'est une influence assez inconsciente parce que j'ai dû tomber sur Robert Crumb lorsque j'étais avant le lycée, au collège, c'est parti de ma mémoire, c'est enfoui en moi. Mais donc je ne cherche pas forcément à me rapprocher de lui, mais il se trouve que les préoccupations sont les mêmes. En fait, elles sont assez communes, finalement. C'est le fait de les exprimer de cette façon, de les exprimer en dessin, qui sont moins courantes, quoi. Mais voilà, cette envie d'exprimer son désir sexuel de façon violente, dans la destruction de soi-même, c'est ce qui nous rapproche, je crois que c'est comme ça.
Alors, vous vous trouvez très bien dans cette exposition pour 2 raisons. D'abord parce que « À mon seul désir », on pourrait croire que ça a été inventé pour vous, ce titre, parce que vous ne vous réfrénez pas du tout dans ce que vous racontez et de ce que vous montrez. Ou peut-être que si vous vous réfrénez, vous avez un imaginaire encore plus incroyable que ce que vous nous montrez. Mais surtout qu'il y a un mélange. Je vous ai vu passer tout à l'heure devant l'étoile de Melky et vous avez dit « Ah, Mad Movies ». Et voilà. Et vous venez à la fois de cet univers-là et d'un dessin dont on sent une influence extrêmement académique. Enfin, vous avez une formation classique.
Ah oui, c'est vrai que... Mon dessin, c'est un peu un mélange de beaucoup d'influences, si vous voulez. J'aime beaucoup la bande dessinée américaine, comme on peut trouver Corben, un dessin assez réaliste, où l'anatomie est beaucoup mise en valeur. J'ai grandi avec le cinéma fantastique, science-fiction, l'horreur. J'ai dû voir Zombie de Romero, j'avais pas l'âge. Je devais avoir 8 ans par là. Et en même temps, je suis très attiré par ce dessin Linclair à la Hergé, Jacobs, et franchement, Chaland aussi. Vraiment, j'essaye de concilier ces deux univers-là. C'est très dur. En ce moment, je fais une fixette aussi sur Juillard, donc j'en chie. Parce que j'ai la volonté d'absorber et de concilier ces gens-là. C'était quoi votre question?
ma question, c'était justement cet univers hétéroclite. Vous y aviez très bien répondu. Alors, est-ce que vous vous sentez à votre place ici? Est-ce que vous avez été... quelle est votre lecture de cette exposition?
Ah oui, je me sens parfaitement à ma place. C'est vraiment... là, on lit un peu ma biographie avec les illustrations de Melki, les illustrations de couverture de Nicolet, dont j'ai beaucoup de romans chez moi. Enfin, voilà, j'ai grandi avec ces images-là. Ça me surprend, cette parenté. Et c'est vrai que c'est un univers qui, finalement, est assez hétéroclite, peu cohérent. C'est ce qui le rend, justement, authentique, à mes yeux. Puisque trop de cohérence serait un peu le signe de quelque chose d'artificiel. Et là, je sens bien une espèce de cohérence, un univers cohérent d'esprit. Mais voilà, chacun, les boulots sont personnels. Voilà, c'est ça que je retiens. Et je me sens bien là-dedans, ouais, voilà. On dirait une frise historique.
Marie Morel, on se trouve devant votre tableau, La sexualité des vieilles dames, un tableau qui date de 2009, immense, où on voit, comme se reproduisant à l'infini, des vieilles dames qui ont l'air d'assumer pleinement leur sexe et d'assumer pleinement leur sexualité. Alors, comment vous est venue l'idée de ce tableau ?
Alors, ce tableau, je l'ai fait parce que je trouve que on dit toujours qu'une vieille dame n'a plus de sexualité. Et c'est un tableau très très militant parce que je veux montrer, prouver et entraîner les femmes à partir de 50, 60, 80, 90, 100 ans, 110, 120, de vivre leur sexualité à fond. Donc j'ai fait ce tableau et chaque fois, il y a beaucoup de petites femmes âgées qui sont dessinées, certaines ont 100 ans, et elles disent avec leurs mots le bonheur qu'elles ont à vivre sexuellement certaines choses. Alors, il y en a une qui dit « j'ai du mal à me caresser parce que j'ai de l'arthrose, mais que c'est bon quand même ». Et l'autre qui dit « la douche qui coule sur moi, ça m'excite et ça finit par me faire jouir ». Et puis, il y en a une autre qui dit « j'ai trouvé un vibromasseur et j'ai mon bonheur ». Voilà, en fait, ces femmes vivent ce que tout le monde, tout adulte peut vivre, malgré leur âge.
Et comment vous les avez représentées, ces femmes ? Elles sont à chaque fois dans des sortes de petites vignettes, les unes à côté des autres.
Alors, elles sont surtout représentées nues, pour vraiment avoir ce rapport sexuel. Surtout leur sexe est visible. Et c'est un tableau qui est représenté aussi avec des visages vieux. Voilà, ça c'est important parce qu'il faut qu'on sente que ça soit des vieilles dames. Et sinon, elles sont toutes dans des sortes de petits compartiments pour vraiment différencier leurs phrases de plaisir.
Et avec le sexe qui est vraiment représenté ouvert, comme une fleur.
Tout à fait comme une fleur et... peut-être plus gros que de nature, pour que vraiment on sente ce sexe et à quel point c'est important de le faire vivre jusqu'au dernier souffle de la vie.
Il y a une fierté, je trouve, dans la représentation de ces sexes.
Oui, je trouve que c'est un élément important de la vie et qu'il ne faut pas en avoir honte, il faut le vivre et l'assumer et même pour un peintre comme moi, le proclamer, le partager.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi, Marie Morel, ce tableau pour l'exposition 20 ans de mauvais genre ? Pourquoi celui-ci ?
Parce que c'est un tableau qui... Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le regarder parce que c'est tabou. Et notamment des femmes, ça m'étonne beaucoup. Il y a des femmes qui me disent « Oh, j'ai eu du mal à devant ton œuvre ». Des femmes plus jeunes, hein, des femmes de 40 ans, 50 ans. Et moi, je trouve qu'il faut arrêter d'avoir des tabous pour la sexualité, quoi. Même pour tout.
Est-ce qu'elles seraient mauvais gens, ces femmes ? Ces vieilles dames ?
Elles sont... Alors, la notion mauvais genre peut être bon genre pour d'autres. Alors, pour certaines, elles sont très mauvais genre. Pour moi, pas du tout. Mais en même temps, mauvais genre, oui, par rapport à ce qu'on en dit.
Et pour vous, Marie Morel, qu'est-ce que ça voudrait dire, être mauvais genre ? Est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif ? Comment est-ce que vous l'entendez, ce terme ?
Moi, j'aime bien la transgression. J'aime, surtout dans l'érotisme, par exemple, le BDSM, c'est quelque chose qui me passionne. Et notamment, j'ai fait beaucoup de tableaux sur cela. Et je le vis aussi. Et c'est très mauvais genre. C'est très mal perçu par certaines personnes. C'est transgressif par rapport à plein de choses.
Vous avez fait le tour de l'exposition. Est-ce qu'il y a des œuvres qui résonnent avec la vôtre ou avec qui vous êtes, Marie Morel ?
Ben, d'abord, mon regard va vers vous. Voilà. Et ce que vous avez réussi à faire avec ces émissions et avec ces êtres que nous tous, créateurs et artistes et écrivains, enfin tout ça, et vous nous réunissez dans une grande fête et un livre qui est magnifique. Et alors pour ça, merci.
Ben, merci Marie.
Fausto. Alors, Monsieur Beer et Monsieur Fausto sont venus nantis de deux visionnaires hallucinants, Joseph Farel d'un côté et Maruo de l'autre. L'un qui est un des plus grands dessinateurs d'Eroguro japonais et l'autre qui est un visionnaire sadien, sadique, masochiste, les plus extraordinaires et les moins connus en France. Donc, présentez-nous un petit peu à la fois les deux figures et puis tous les œuvres que vous avez choisies pour incarner ces personnages hors du commun.
Joseph Farel, qui a beaucoup travaillé dans le réseau des sex shops, ses dessins en fait sont connus depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Ils ont été édités dans des bouquins qui se vendaient non pas sous le manteau, mais dans des sex shops ou des librairies spécialisées. C'est un dessinateur SM et qu'on peut qualifier en définitive de érotique grotesque. Je pense que c'est peut-être un des représentants français qui se rattache le plus à une tradition qu'on a l'habitude de qualifier de japonaise, enfin qui a ses racines au Japon. D'ailleurs, j'ai édité un livre sur Farel et les Japonais achètent le bouquin de Farel. Il a beaucoup de succès au Japon. Une galerie Takoshé, qui doit représenter, j'imagine, Maruo, oui, qui vend du Farel. Farel va en fait beaucoup plus loin que tous ses confrères européens qui font dans le fétichisme ou qui aiment bien ce dont on parle du bout des lèvres, du shibari. C'est un terme un peu chic, mais en fait Farel, lui, n'est pas chic du tout. Il aime que ça agresse, que ça fasse mal. C'est un homme de douleur, donc les dessins ne sont pas toujours supportables pour le commun des lecteurs, et c'est pour ça qu'on a décidé de l'exposer à mauvais genre.
Quant à Maruo, il a une carrière assez, assez incroyable, puisqu'en fait, à l'origine, il ne se destinait absolument pas à dessiner de l'Eroguro. Ça ne l'intéressait pas trop. En fait, lui, il voulait vraiment être un auteur de manga mainstream. Alors, il a quitté, en fait, la région du Kyushu pour Tokyo quand il avait 17 ans. Il est parti, et puis il a postulé dans le plus gros magazine de manga, en fait, au Japon, le Weekly Shonen Jump, qui publie effectivement les séries les plus populaires, commerciales, mainstream, tout ce qu'on veut. Et en fait, il s'est fait recaler, non pas à cause de la portée offensive ou abrasive de son dessin, c'est uniquement parce qu'il avait été jugé en fait pas suffisamment compétent. Et en définitive, il a commencé à traîner ses guêtres à Tokyo, à découvrir surtout le cinéma. Lui qui était provincial, en fait, c'était un vrai gourmand de 7e art. Et surtout, c'est un gros cinéphile très très branché cinéma européen. C'est assez drôle, le cinéma japonais l'intéresse pas trop, il le dit lui-même, ça l'emmerde même d'une certaine façon. Donc il a comme ça nourri une espèce de cinéphilie européenne compulsive quand il était adolescent et jeune adulte, avant ensuite de pouvoir vivre de son art en travaillant pour des revues pornographiques et sadomasochistes. Et ce qu'on lui demandait de faire, en fait, c'était il avait vraiment un cahier des charges à respecter, avec un certain nombre de scènes sexualisées qui étaient greffées sur des scénarios plus ou moins intéressants ou rocambolesques. Donc c'est assez marrant de voir qu'un impératif a fini par devenir en fait sa marque de fabrique, et ce qui fait qu'aujourd'hui il est reconnu en fait en dehors du Japon, puisque quand on parle de Maruo à des occidentaux, il l'associe immédiatement à l'image d'un auteur sulfureux, à la fois raffiné mais quand même très agressif en fait dans sa force illustrative.
C'est tout le contraire. En fait, là on a deux artistes qui s'opposent sur leur mode de fonctionnement. Maruo travaille, finalement, s'est épanoui dans la contrainte. Farrell, quand il a eu à dessiner des commandes, parce qu'il avait des gens qui lui demandaient « dessinez-moi des femmes décapitées, par exemple, ou des scènes de Moyen-Âge », ça n'a jamais abouti à quelque chose de très fort. Et il dessinait à l'époque à l'encre de Chine. Quand il s'est mis au graphite, au crayon de bois, et qu'il était seul avec sa planche à dessiner, là il a donné libre cours à toute une imagination complètement débridée, et ce qui peut-être le différencie, sans que ce soit une qualité en soi, de l'ensemble des dessinateurs présents dans cette exposition Mauvais Genre, c'est que lui n'a jamais été un artiste, il ne s'est jamais revendiqué comme artiste, il a d'abord dessiné pour son plaisir. C'est un peu comme Clovis Trouille, dont la peinture a été longtemps secrète, révélée par André Breton, par les surréalistes, mais Clovis Trouille se définissait comme un peintre du dimanche. Et c'est peut-être ça aussi, le secret de Farrell, c'est qu'il n'a jamais été assujetti à une galerie, il n'a jamais cherché à gagner sa vie pour dessiner, il dessinait véritablement pour son plaisir, et à un moment donné, il s'est rendu compte que son plaisir pouvait coïncider avec le plaisir d'autres lecteurs. Enfin, quand il fréquentait la rue Saint-Denis avec ses dessins sous le bras, c'est comme ça qu'est né Joseph Farrell, cette signature énigmatique que des collectionneurs recherchent. Donc lui, c'est en fait, Maruo, c'est la contrainte. Il s'est épanoui dans un certain nombre de cahiers des charges. Farrell, les cahiers des charges, c'était impossible. Parce que c'est un homme il faut bien se rendre compte de ça. S'il ne bande pas, s'il n'arrive pas à bander en dessinant, son dessin est mauvais. Il ne peut pas dessiner. Donc il a besoin, pendant 8 heures tous les jours devant sa feuille de dessin, il a besoin d'être excité par ce qu'il dessine. Et ça n'exige aucune contrainte.
Mauvais Genre remercie Agnès B., Jean-François Sens, Emma Charin, Annie Moret, Théwen Chardronnet et Sébastien Ruiz, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Louis Delong, Séam Boutata, Claire-Martin Dugard et toute l'équipe, Céline Duchesnay, Sixtine Audbert, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Christophe Bire, Antoine Guillot, Pacôme Thielement, Jean-Luc Rivera et Fausto Fazulo. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une émission DVD US. Merci de tout cœur à Jean-Pierre Dionnet. Rappelons que l'exposition se tient au 17 rue Dieu à Paris jusqu'au 10 janvier 2018. Et vous écoutez France Culture.